France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
La journée internationale des peuples autochtones, chaque année, le 9 août, arrive cette fois-ci dans un contexte particulièrement difficile pour l'Amazonie et pour ses habitants. La mort violente il y a 2 semaines dans le nord du Brésil du chef indigène Emira Wayapi a une nouvelle fois illustré la menace ou les menaces qui pèsent sur les communautés autochtones. On estime qu'elle représente au Brésil entre 800 000 et 900 000 personnes réparties dans 300 tribus et au total quelques 3 millions de personnes en Amazonie. Menacées tout à la fois par la pression foncière liée à l'agriculture ou à l'exploitation du bois, par l'orpaillage illégal ou par la recherche et l'exploitation minière. Depuis janvier et l'intronisation du président brésilien Jair Bolsonaro, les menaces sont également d'ordre juridique puisque différents projets de restriction des droits des autochtones ont été lancés dans un contexte politique qui s'avère très favorable en ce moment au lobby de l'agrobusiness. Mais la France est aussi un état amazonien, limitrophe du Brésil par la Guyane, et la France n'a pas encore vraiment abandonné explicitement son projet Montagne d'or, qui menace aussi les fragiles équilibres naturels en Guyane. Alors quelle place pour les autochtones chez eux? Nous recevons ce matin Leslie Clou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste spécialisée en droit des peuples autochtones, membre du réseau JusTIP, et nous recevons également Aileen Sahin, bonjour à vous.
Bonjour Benoît.
Chargée de plaidoyer à l'ONG Survival International. Alors pour débuter peut-être cet entretien à propos de la mort du chef Emira Wayapi à Mariri, un village reculé du nord du Brésil, Jair Bolsonaro, le président brésilien, n'a pas attendu les conclusions de l'enquête pour dire qu'il n'y avait pas d'indices, selon lui, prouvant que le meurtre était lié à l'orpaillage illégal, ce qui est soupçonné par la communauté Wayapi. Qu'est-ce qu'on en sait, Aileen Sahin, de cette mort et de ce qui est un meurtre finalement?
Oui, on sait que le chef Wayapi a été retrouvé mort et Bolsonaro n'a pas clairement dit que c'était des orpailleurs qui l'avaient assassiné. Tout ce qu'on peut dire nous, c'est que près de leur village, en fait, il y a eu une recrudescence d'orpailleurs illégaux qui se sont installés, et donc du coup Bolsonaro incite en fait ces orpailleurs illégaux à intervenir et à aller sur les terres des peuples autochtones. Donc voilà, on peut faire un lien justement entre cette incitation-là à exploiter les terres des peuples autochtones et la recrudescence de violences et d'assassinats au Brésil.
Défendre l'environnement est extrêmement dangereux hein, dans le pays. Alors ça date pas d'ailleurs de Bolsonaro, mais on a compté 57 morts en 2017, 57 défenseurs de l'environnement morts au Brésil en 2017. Sur l'orpaillage, parce qu'il y a tout un tas d'autres menaces, mais on peut s'arrêter sur l'orpaillage illégal. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du phénomène qui arrive dans un contexte d'augmentation du prix de l'or, et donc il y a effectivement une pression très forte sur les communautés autochtones?
Ouais, alors là, il y a quelques semaines, il y a eu environ 10 000 orpailleurs illégaux. Ils sont installés par exemple sur les terres des Yanomami. Donc le parc Yanomami, c'est la plus grande zone forestière qui est gérée par les autochtones au monde. Donc Survival a aidé justement à cette création avec le chef David Yanomami. Donc en fait, ces territoires-là qui sont normalement censés être protégés, ils sont de plus en plus envahis par les orpailleurs illégaux. Donc voilà, on peut clairement voir l'empiètement sur leurs terres, et en fait cet empiètement là par les opérateurs légaux, ça leur amène de la violence et aussi des maladies, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a encore des peuples non contactés comme les Yanomami non contactés ou par exemple les Awa non contactés qui ont fait la une des journaux il y a pas si longtemps
avec une photo
oui voilà, la photo et la vidéo du Awa non contacté. Ouais.
Sur des communautés qui n'ont pas eu et jamais de contact hein, avec les populations autour.
Voilà, en fait, ce qu'on dit quand on dit non contacté, c'est-à-dire que c'est un peuple qui n'a pas de contact pacifique avec la société dominante. Donc peut-être qu'ils en ont eu dans le passé, mais en fait souvent les génocides sont inscrits dans leur mémoire collective. Donc c'est pour ça que maintenant pour eux contact signifie génocide. Donc c'est pour ça qu'ils fuient le contact avec la société dominante. Donc par exemple ce Awa là, on a bien vu dans la vidéo qu'il a fui dès qu'il a vu que quelqu'un est en train de le prendre en vidéo, parce que justement il sait que ce n'est pas bon pour leur peuple, parce que souvent, en fait, quand un contact est entamé avec une population non contactée, il y a environ 50% à 90% de la population qui est décimée à cause des maladies.
À cause des maladies.
Ouais, ce qui ne sont pas immunisés, en fait, contre des maladies bénignes comme la grippe ou la rougeole.
Autre conséquence de l'orpaillage, c'est évidemment la pollution.
Oui, la pollution.
Au cyanure, au mercure, c'est ça ?
Oui, voilà, parce qu'en fait, une méthode qui est utilisée pour l'extraction, par exemple, de l'or, on utilise le mercure, donc c'est un métal extrêmement nocif. Et en utilisant ce métal-là, du coup, il rejette dans les rivières et dans la forêt ce métal toxique-là qui va polluer les végétaux qui seront ensuite, donc du coup, mangés par les poissons. Et c'est tout en fait la chaîne alimentaire qui est intoxiquée, puisque les peuples autochtones se nourrissent bien évidemment de ces poissons-là aussi.
Ouais, on a retrouvé des taux dans des analyses sanguines assez inquiétants dans certaines populations autochtones. On est bien d'accord, l'orpaillage est interdit. Et dans quelle mesure est-ce que on qualifie ces pratiques d'illégales, Leslie Clou? Non, vous savez pas.
Je suis désolée, le thème de l'enfin, c'est pratique. Ben, allez-y.
On va poser la question à Aileen Sahin.
Elles sont illégales dans le sens où ces peuples autochtones, ils vivent sur leur terre. Donc, ils ont le droit, leur droit est reconnu par la constitution brésilienne, les droits collectifs de rester sur leur terre. Donc, le fait qu'une entreprise, que n'importe quelle entreprise aille sur leur terre et décide d'exploiter leurs ressources, c'est interdit. Et aujourd'hui, le gouvernement n'est pas prêt à protéger ces peuples autochtones-là. Donc, cette absence de protection, en fait, ça incite du coup ces peuples autochtones-là à demander l'aide de la communauté internationale. Donc, c'est le travail de Survival International de justement de faire entendre la voix des peuples autochtones et de dire que le gouvernement ne protège pas ces peuples autochtones-là, donc qui ne respectent pas la constitution et aussi la convention 69 de l'Organisation internationale du travail, qui est le seul instrument juridique international qui vraiment protège les droits des peuples autochtones spirituels et aussi physiques.
Voilà, et qui protège l'habitat dans une conception étendue hein, du terme. Les protections, il y a effectivement cette convention de l'OIT, il y a l'ONU aussi, il y a la constitution du Brésil de 88 qui devrait protéger les autochtones, il y a la Cour suprême aussi, enfin il y a tout un tas de garde-fous quand même sur la vie et les menaces qui pèsent sur les communautés autochtones.
Ouais, voilà, en fait, on a toutes ces lois, ces constitutions internationales qui protègent les droits des peuples autochtones, donc collectifs, mais en pratique, les gouvernements et les multinationales, elles ont le pouvoir sur ces conventions-là. Donc l'intérêt économique est toujours sur...
Prime,
voilà, ouais. C'est ça.
Et depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro, on a senti vraiment une pression supplémentaire, parce que ça ne date pas de lui. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier, et en tout cas depuis janvier?
Par rapport à
ces protections, vous disiez tout à l'heure à Aileen Sahin que Bolsonaro, en quelque sorte, ouvrait la porte, ou en tout cas encourageait par son discours favorable à l'agrobusiness, favorable à l'exploitation du bois, à l'exploitation minière également. On a senti très clairement que ça avait fait changer les choses dans un contexte qui, depuis des années et avant Bolsonaro, était déjà très compliqué pour les populations
autochtones. Oui, voilà, c'était déjà compliqué à la base pour les autochtones, parce qu'il y a toujours eu des attaques sur contre leur terre, parce qu'il faut savoir que les territoires des peuples autochtones, c'est là où il y a 80% de la biodiversité dans le monde, et ce sont des territoires très riches en ressources minérales, minières. Donc en fait, depuis Bolsonaro, lui, il essaye d'intervenir dans le cadre législatif, mais aussi à travers son discours haineux. Donc dans le cadre législatif, du fait qu'il a essayé de donner le pouvoir de la délimitation des territoires qui appartient à la base à la FUNAI, qui est le département des affaires autochtones, et de le donner au ministère de l'Agriculture, donc du coup, clairement, qui protège les intérêts des lobbyistes agro-industriels.
Oui, il faut dire que la ministre de l'Agriculture n'est pas franchement versée du côté de la protection de l'environnement.
Oui, voilà. Au contraire, elle est amie avec les plus grands exploitants d'agro-industrie. Tous les lobbies, en fait, sont derrière. Mais il n'a pas réussi à faire ça. Et puis aussi, le discours haineux de Bolsonaro qui incite clairement au racisme des peuples autochtones. Il avait bien dit que c'est dommage que la cavalerie brésilienne n'ait pas été aussi efficace que la cavalerie américaine qui, eux, ont exterminé leurs Indiens.
Ouais. Il s'appelle lui-même le capitaine tronçonneuse, hein, je crois, ouais. Jair Bolsonaro. Leslie Clou.
Non, pour compléter donc, les propos d'Aileen, à cet égard, dans son discours donc, prononcé lors de la campagne, il avait bien indiqué que les minorités doivent se plier à la majorité, donc les minorités, donc les populations autochtones, les minorités doivent s'adapter ou simplement disparaître. Et en complément également à ce que disait Aileen, on a constaté donc depuis le début du mandat de Bolsonaro une augmentation de la déforestation donc en Amazonie de 67%. Il faut dire qu'entre 2004 et 2014, on avait une baisse de la déforestation. Et là, donc, il y a eu une expansion donc, de la déforestation qui est permise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décret qui le permette, mais elle est permise, c'est-à-dire on ferme les yeux sur ces mesures. Et en un an, de juillet 2018 à juillet 2019, il y a une hausse de 278% de la déforestation. Ce qui montre justement la place qu'il a donnée à l'orpaillage illégal. Tout à l'heure, donc j'ai une sorte de bug parce que l'orpaillage, effectivement, est illégal. Enfin, il n'y a pas de concessions qui sont données à ces orpailleurs. Ce sont toujours des orpaillages clandestins qui profitent de la vulnérabilité donc des populations autochtones. Et un élément qui est aussi intéressant, c'est qu'on parlait de droits, mais enfin, en Amazonie, c'est sur le territoire, en Amazonie brésilienne, hein, les territoires donc, où le plus de territoires autochtones sont homologués. Au contraire, donc, des territoires autochtones hors Amazonie qui, eux, n'ont même pas passé cette phase d'homologation.
C'est-à-dire qu'ils sont délimités, très clairement.
Alors, en fait, il y a plusieurs étapes. Et aujourd'hui, effectivement, ça passe sous la coupole du ministère de l'Agriculture, donc qui dirige la FUNAI. Il y a d'abord l'identification des terres qui seraient des terres autochtones. Après, on va les démarquer. Et ensuite, il va y avoir un processus d'homologation et qui, lui, va finir par entraîner leur enregistrement. Et dans ces cas-là, on pourra parler de terres autochtones inaliénables. Mais avant ça, les terres restent particulièrement vulnérables parce qu'elles ne sont pas enregistrées. Et actuellement, et déjà sous les politiques précédentes, hein, Dilma Rousseff et du président Lula, leur politique n'était pas du tout favorable aux populations autochtones et on avait déjà un grand frein dans la démarcation des territoires autochtones. Et aujourd'hui, on va arriver à un blocage total, ce qui accentue justement leur vulnérabilité.
Disons que c'est décomplexé, quoi, peut-être depuis l'arrivée de Bolsonaro. On parle de 13% de la superficie du Brésil, c'est ça, en termes de terres autochtones qui sont normalement protégées. Ce que dit Jair Bolsonaro, c'est on doit les sortir de la pauvreté. Il faut leur donner accès aussi à la richesse et à un mode de vie qui, selon lui, correspondrait peut-être au temps actuel.
Ouais, ce qu'il veut faire, c'est ça le discours. Il veut les intégrer contre leur gré dans cette société-là. Sauf que eux, les peuples autochtones, leur vie, en fait, c'est leur terre. Donc, si on les expulse de leur terre, pour eux, ils n'ont plus de vie. Parce que, en fait, leur terre, leur forêt, c'est comme leur supermarché. Ils ont leur nourriture, ils chassent, ils pêchent. C'est aussi leur maison. Donc, que ce soit dans le cadre spirituel ou matériel, si on les expulse de leur terre et on essaie de les intégrer dans la société-là, pour eux, ils n'ont plus de raison de vivre. Donc, par exemple, j'étais au Brésil avec les Guarani, c'est un des peuples les premiers contactés au Brésil. Et on peut voir, c'est un des plus forts taux de suicide chez les jeunes. Donc, le plus jeune, c'était un enfant de 9 ans qui s'est suicidé parce que, justement, pour eux, pour cet enfant-là, il n'avait plus d'avenir, en fait.
C'est un problème qui ne touche pas que le Brésil, en Colombie, en Bolivie, au Pérou et puis en Guyane. Alors comment est-ce que les choses se passent de l'autre côté des frontières brésiliennes, Aileen Sahin?
En Colombie, les droits, on reconnaît aussi, la Constitution reconnaît aussi les droits collectifs des peuples autochtones. Le président colombien, il suit un peu la lignée de Jair Bolsonaro dans le fait que, bien sûr, il y a les lois, mais eux ne protègent pas forcément les peuples autochtones parce que ce sont les intérêts économiques qui priment. Donc les attaques, elles continuent et ils essayent toujours d'exploiter ces terres-là pour les industries.
Et en France?
En France,
la
en Guyane. L'orpaillage illégal, il est toujours présent.
On a eu encore, effectivement, dans l'actualité, cette mort des trois gendarmes qui luttaient contre, il y a quelques semaines, hein, contre l'orpaillage illégal. Ça montre bien, effectivement, que le problème est toujours là.
Oui, le problème, il est toujours là. Et le problème, c'est que tant que la France ne ratifierait pas la Convention 169, il n'y aura pas une reconnaissance pleine de ces peuples autochtones en tant que peuple. Et c'est important, je pense, aujourd'hui pour... avec l'avancée des multinationales et qui veulent justement prendre ces terres-là.
Ouais, Leslie Clou.
Non, je crois qu'il y a deux éléments qui sont à préciser aussi concernant la France, donc pour compléter les propos d'Aïline. D'une part, on parlait d'homologation, donc 13% des terres titularisées pour les peuples autochtones au Brésil. En France, il n'y en a pas. On n'a pas de droit de propriété pour les peuples autochtones.
Parce que la Constitution ne reconnaît pas de différence possible entre les citoyens, c'est ça?
Exactement, mais elle aurait pu reconnaître donc des droits spéciaux. Elle a reconnu effectivement donc des droits d'usage aux communautés, aux populations autochtones qui tiraient donc leur moyen de subsistance des forêts, comme elle l'indique, mais ce sont donc des droits d'usage collectif et qui ne constituent pas des droits de propriété, qui posent également leurs limites parce que viennent se superposer aux droits d'usage tous les dispositifs relatifs aux droits de l'environnement ou si les zones de droits d'usage, donc le territoire sur lequel les peuples autochtones ont le droit de vivre et donc d'utiliser les ressources du territoire, sont aussi concurrencés par les normes relatives donc aux zones, aux aires protégées, aux droits de l'urbanisme. Et par ailleurs, se pose aussi la question, donc on parlait tout à l'heure, ça c'était intéressant, donc du développement. En fait, les peuples autochtones ont le droit à déterminer leur propre développement. C'est-à-dire, donc, s'ils veulent, effectivement, parce que Bolsonaro disait, les Indiens veulent l'énergie électrique, des médecins, des dentistes, Internet. Ils veulent ce que l'on veut. D'autres veulent qu'ils vivent au sein de réserves, comme s'ils étaient des animaux dans un zoo. D'ailleurs, ça a beaucoup fait réagir les populations autochtones. Mais en fait, c'est aux populations autochtones de déterminer quel est le développement dont ils veulent se prévaloir. Et donc en France, le concept de subsistance justement est limité à des pratiques ancestrales de chasse ou de pêche et par exemple ne permettrait pas à des populations autochtones de solliciter donc des droits d'usage sur des terres parce qu'ils voudraient développer l'écotourisme. Ça, on considère que ça ne fait pas partie donc du droit ancestral autochtone, donc le droit au développement propre autochtone ne ferait pas partie d'un droit ancestral.
Donc il n'y a pas une action politique et sous prétexte, ou alors en tout cas c'est peut-être juridiquement fondé, hein, que la Constitution ne le permet pas, il n'y a pas une vraie politique de préservation de l'identité autochtone en Guyane.
Non, de préservation, si, il y a des politiques culturelles, pardon, mais pas de reconnaissance de droits des peuples autochtones comme sujet collectif, sujet porteur de droits à l'autonomie, donc ce qui est le courant, ouais, on pourrait reparler, qui traverse toute l'Amérique latine aujourd'hui.
Eline Sahin.
Moi, je pense qu'il faudrait vraiment une reconnaissance des droits de ces peuples autochtones-là, donc... Pour moi, en fait, ils sont toujours pas reconnus. Et ça se passe aussi par l'éducation, en fait. Donc, l'éducation pour les peuples autochtones, elle doit être gérée par les peuples autochtones pour justement continuer à transmettre tous ces savoirs ancestraux-là. Et sauf que aujourd'hui, les peuples autochtones de Guyane, ils sont dans des systèmes de scolarisation, adaptés à la société. Occidentale, mais qui ne suivent pas du coup leur tradition orale. Donc tous ces savoirs-là, ils vont être perdus. Donc d'ailleurs, c'est l'année internationale des langues autochtones. Donc voilà, je voulais juste dire un petit mot sur ça, comme quoi c'est très important pour hériter, pour transmettre tout cet héritage-là autochtone. Donc c'est important que ces peuples autochtones-là de Guyane puissent transmettre leur propre savoir selon leur propre manière.
Le projet Montagne d'Or, Aïline Sahin, il en est où?
Je peux pas me prononcer là-dessus parce qu'on n'a pas de chercheurs sur place. Donc on peut,
ouais,
pas...
Pour l'instant, il est en stand-by. C'est un projet d'exploitation.
Projet d'exploitation, ouais. Du coup, pour exploiter les ressources minérales, ouais, l'or, ouais, en Guyane. D'ailleurs, la jeunesse autochtone de Guyane s'est vivement prononcée contre ce projet-là. Donc voilà, ils sont toujours là pour lutter contre ce projet. Les soutiens.
Leslie Clou, vous parliez il y a un instant des revendications autonomistes à travers l'Amérique du Sud, des communautés autochtones. C'est un vrai mouvement. Peut-être qu'on peut remonter dans l'histoire à la fin des dictatures en Amérique du Sud. Comment est-ce que on peut regarder aujourd'hui tout ce mouvement-là?
En fait, on peut regarder ce mouvement tant au niveau international, régional que national. Enfin, les revendications des populations autochtones au retour de leur autodétermination, parce que c'est un retour, ils ont été colonisés, elle a été perdue. Elle est là depuis toujours, mais elle a été confortée par tout un mouvement, une mobilisation donc internationale pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones et pour la première fois aux Nations Unies par la discussion d'une déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui reconnaissent le droit à l'autodétermination des peuples autochtones, à l'autodétermination, c'est-à-dire à l'autonomie dans tous les domaines, que ce soit pour déterminer leur institution politique, pour avoir un droit au territoire, pour avoir un accès donc à l'éducation, à la culture, une propre économie, à la santé, etc. Et au niveau donc en Amérique latine, il y a tout un mouvement vraiment général de en même temps, donc, qu'il y avait une lutte pour la démocratisation des États après les dictatures des années 80-90, il y a eu aussi une mobilisation des populations autochtones pour que leurs revendications et leurs droits soient incorporés au sein des nouvelles constitutions qui sont adoptées après les dictatures. Ça a eu un certain succès et c'est pour ça que la position de la France qui se trouve là de fait dans cette région de par la Guyane est choquante pour quand les peuples autochtones de Guyane se comparent avec la situation des autres peuples autochtones qui n'est pas enviable, mais d'un point de vue juridique, oui, elle est enviable. Pourquoi certains chercheurs donc parlent de constitutionnalisme à horizon pluraliste. Donc, déjà, en France, ça fait peur. Et en plusieurs cycles. Au début, on reconnaissait donc que l'État était multiculturel. Mais avec les constitutions boliviennes et équatoriennes, donc les dernières constitutions donc de 2007 et de 2008 pour l'Équateur, on reconnaît le droit l'existence non seulement des peuples autochtones, mais aussi l'existence de nations et nationalités autochtones, et on reconnaît aussi l'existence de juridictions autochtones, leur droit donc de faire leur propre justice. On reconnaît le droit les droits de territoires autonomes autochtones et aussi le droit à leurs propres droits et aussi dans la constitution équatorienne le droit de la nature. Donc on a été très loin dans la reconnaissance de droit et même d'une autre philosophie de droit avec la reconnaissance également du bon vivre, du bien vivre. Et en France on se retrouve donc ce mouvement là donc a été incorporé au sein des constitutions et il a été accompagné d'un autre mouvement qui a été l'adoption et la ratification de la convention 169 de l'OIT sur le droit des peuples autochtones, qui est une convention qui reconnaît aussi un ensemble de droits aux peuples autochtones et reconnaît aussi leur droit à l'autodétermination d'un point de vue interne.
Et reste à voir comment ces conventions sont appliquées ensuite sur le terrain. Aline Sahin et Leslie Clou, vous restez avec nous. On va se retrouver pour poursuivre cette discussion après le journal.
France Culture, les matins d'été. Benoît Bouscarel.
Les matins d'été, à l'occasion de la journée internationale des peuples autochtones, journée de l'ONU, nous faisons le point aujourd'hui sur la situation des peuples autochtones et de leur communauté en Amazonie, en Amérique du Sud, au Brésil et dans les pays limitrophes. Comment faire respecter les conventions internationales? Comment faire respecter le droit, tout simplement, aussi des pays? On a évoqué ces questions tout à l'heure avec nos deux invités que nous retrouvons maintenant, Leslie Clou, qui est juriste, et Aileen Sahin de l'ONG Survival International. Vous avez évoqué tout à l'heure, Leslie Clou, l'ensemble des conventions internationales et de la juridiction qui s'applique, qui devrait s'appliquer sur les territoires concernés par les habités par les autochtones. Comment est-ce qu'on explique que la situation, malgré toutes ces conventions, toutes ces signatures, tous ces traités, la situation sur place ne s'améliore pas?
Alors, la situation s'est déjà en premier lieu améliorée par rapport à ce qu'elle était avant, donc déjà soit pendant la dictature, parce que les peuples autochtones ont été aussi victimes de la dictature, ils ont rarement eu réparation et hommage par rapport justement à cette situation, qualité de victime. Mais en plus, effectivement, la situation s'est améliorée d'un point de vue juridique et même d'un point de vue du statut. Il y a eu beaucoup d'améliorations en Amérique latine pour la place des peuples autochtones dans l'État et même par rapport même à la discrimination dont ils souffraient. On peut penser même à la Bolivie avec la reconnaissance d'un État plurinational. Actuellement, les langues autochtones font partie des langues officielles, donc il y a eu des avancées, il y a des titularisations de territoires, donc il y a eu des avancées. Mais il y a des violations de droits. Pourquoi? Parce que en même temps, pendant ce processus de transition à la démocratie, on a aussi donc, le boom de l'économie néolibérale en Amérique latine et d'exploitation des ressources naturelles. On rentre en conflit. Les droits des peuples autochtones, parfois, sont dans la Constitution, mais ils n'ont pas le même... on considère en fait que ce sont des principes généraux, qu'il faut encore des lois pour pouvoir les appliquer, donc ces lois les précisent et parfois elles sont en deçà donc de droits économiques qui sont reconnus dans la Constitution aux entreprises transnationales par exemple pour exploiter les ressources naturelles. Et donc, quand on parle donc de cette économie néolibérale, tout à l'heure on parlait de l'orpaillage, mais en fait il n'y a pas que l'orpaillage qui menace effectivement les territoires autochtones, que ce soit au Brésil ou ailleurs. Il y a les infrastructures, les routes qui traversent l'Amazonie. Il y a l'industrie bovine qui est très présente donc en Amazonie du fait de la déforestation. La déforestation aussi est intéressante parce que la déforestation au Brésil, en fait, pour être titulaire, faire valoir un titre de propriété, on doit mettre en valeur une terre. Donc un tiers, un particulier, peut occuper une terre en la déforestant, la déboisant. Il va montrer qu'il ajoute il a une valeur ajoutée à cette terre. D'autant plus si après il l'exploite et qu'il est en bord de route. Donc du coup, la déforestation, enfin, est fait partie donc des menaces la déforestation et donc l'élevage bovin, les monocultures de soja qui sont très présentes et de transgéniques, de soja transgénique qui sont très présentes également en Amazonie, sont des menaces, et les barrages hydroélectriques, l'exploitation minière et pétrolière.
Il y a énormément de menaces, effectivement, et face à ces menaces, il y a tout un tas de mobilisations quand même. Mais ce sont des mobilisations qui ont tendance à être criminalisées. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question, Leslie Clou.
Pardon, si je me permets juste avant, et c'était pour rester dans la logique. En fait, face à ces menaces, il y a un outil. On parlait du droit, il reste un outil qui a parfois été efficace. Qui a été efficace, par exemple, on parlera en Équateur. En fait, on a pu paralyser certains projets d'exploitation ou certaines grandes infrastructures en territoire autochtone parce qu'on faisait valoir un article de la Convention 69 de l'OIT qui invoquait le droit des populations autochtones à être consultées, l'obligation des États de les consulter, c'est une obligation étatique, de les consulter pour obtenir leur consentement contre toute mesure qui affecte leur territoire, que cette mesure soit législative ou administrative. Ou administrative, l'approbation d'un projet de développement. Il y a eu des cas de succès donc, où les peuples autochtones invoquaient soit qu'ils n'avaient pas été consultés ou bien que la loi de consultation qui était adoptée n'était pas mise en œuvre et on pouvait suspendre ces projets. Mais c'est très marginal. Ces succès ne sont pas marginaux, mais c'est-à-dire qu'après, il suffit qu'une vraie consultation ait eu lieu ou que l'entreprise change un petit peu son approche du territoire et l'impact sur le territoire pour que ces projets... Enfin, c'est une course sans fin, en fait, pour sans arrêt lutter pour protéger les territoires.
Aileen Sain.
Je voulais dire que aujourd'hui, il y a un rapport qui a été publié par Global Witness pour dire que l'année dernière, il y a eu plus de 64 défenseurs de l'environnement qui ont été tués. Donc en fait, ça vient de la criminalisation des défenseurs de l'environnement, donc de ces peuples autochtones-là, de l'absence de justice contre les personnes qui les attaquent. Donc en fait, les gouvernements ne poursuivent pas ceux qui attaquent ces défenseurs de l'environnement-là. Et souvent, ces peuples autochtones-là sont considérés comme des terroristes. Et faut savoir que c'est pas juste la mort qui les attend, mais c'est aussi tout un processus d'harcèlement et d'intimidation qui sont faits envers les peuples autochtones par les gouvernements et les multinationales pour justement les expulser de leurs terres et exploiter leurs ressources.
Vous nous dites que vous constatez pas vraiment les améliorations dont vient de parler Leslie Clou sur le terrain. Si, quand même.
Sur le terrain aujourd'hui, par exemple, au Brésil avec Bolsonaro, il y a un génocide qui se passe en fait. Donc les peuples autochtones, ils peuvent se faire tuer sans forcément qu'il y ait de poursuites judiciaires contre les personnes qui les tuent ou qui les intimident. Donc en fait, c'est un retour en arrière dans la reconnaissance des droits des peuples autochtones au Brésil aujourd'hui.
Face à ça, faire savoir, dire, documenter, c'est la solution, Aileen Sain.
Voilà, Survivor International travaille pour justement sensibiliser et documenter toutes ces atrocités qui sont commises contre les peuples autochtones. Parce qu'aujourd'hui, vu que les gouvernements ne peuvent pas protéger leur propre peuple autochtone, la mobilisation internationale est importante pour les soutenir. Les peuples autochtones ont besoin justement de ce regard, de cette mobilisation internationale pour faire pression sur les gouvernements, pour faire expulser toutes les entreprises qui vont sur leur terre. Et ça a marché, ça fait 50 ans qu'on existe, on a plus de 200 campagnes qui ont fonctionné. Donc justement, le fait que le gouvernement, le ministère de la Justice reçoit des pétitions, des milliers de mails, ça les a souvent incités en fait, à reconnaître des territoires des peuples autochtones, comme par exemple le parc Yanomami ou le territoire des Awa.
Donc la mobilisation fonctionne, c'est ce que vous nous expliquez à l'international. Et au Brésil même.
Oui, ça fonctionne aussi. Par exemple, en janvier, il y a eu la plus grosse mobilisation internationale du Brésil, des peuples autochtones. Donc c'était Janeiro Vermelho, où tous les peuples autochtones se sont mobilisés contre justement cette politique anti-autochtone-là de Bolsonaro. Et ils ont réussi justement à travers ces manifestations, cette occupation des lieux publics, à justement limiter les changements radicaux de Bolsonaro qui par exemple voulait retirer leur statut.
Quid de l'Église catholique qui se dit très présente sur le terrain en défense des communautés autochtones, Aileen Sain?
Alors pour ce qui est des missionnaires, donc les missionnaires c'est aussi une menace en fait pour les peuples autochtones parce que souvent les missionnaires évangélistes ils apportent aussi des maladies et ils ne reconnaissent pas les droits de leur culture autochtone en fait. Donc c'est aussi une menace que ce soit les entreprises agroforestières de bétail ou aussi ces missionnaires c'est aussi une menace en fait pour les peuples autochtones. Mmh.
Est-ce que le secteur de l'agrobusiness a s'inquiéter dans une certaine mesure de l'image aussi qui est donnée à l'international, notamment par le biais des campagnes dont vous parliez, Survival International, mais il y a d'autres ONG qui s'occupent de ça. Récemment, Roberto Brandt, un responsable de la Confédération Nationale de l'Agriculture, a affirmé que le discours de Bolsonaro commençait à porter préjudice à l'image de l'agroalimentaire.
J'espère.
Leslie Clou, là-dessus ? Non,
il y a... Je pense qu'il y a une prise de conscience internationale que, justement, ils nuisent à l'environnement et aux droits humains. Donc en fait, c'est aussi aux consommateurs de mieux consommer.
Leslie Clou ?
Mais je crois qu'il y a encore une méconnaissance assez générale, en fait, de ce qui cause les menaces aux territoires autochtones, si on parle même du soja, enfin, toutes les personnes qui achètent du soja, enfin, est-ce qu'ils se posent la question d'où ça vient et quelles sont les conséquences du soja? C'est vrai que pour l'huile de palme, il y a eu des grandes campagnes, il n'y a pas du tout les mêmes qui concernent la situation donc, des peuples autochtones au Brésil. Et tout à l'heure, on parlait de criminalisation. Il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Enfin, la situation s'est améliorée à partir des années 80-90. Mais après, avec justement la mise en place des politiques d'économie néolibérale, enfin, ces droits ne sont pas suffisants donc, pour protéger les peuples autochtones. Et effectivement, dès lors qu'ils s'opposent à ces projets, ils sont considérés comme les ennemis du droit. Et c'est dans ce cadre-là qu'on leur applique toutes les législations antiterroristes. Et souvent, les entreprises privées, ces multinationales, sont parties au procès qui incriminent les populations autochtones avec la corruption justement des juges et aussi donc en faisant des faux témoignages contre ces populations.
Alors si on s'éloigne un peu de l'Amazonie maintenant et si on va du côté du Chili que vous connaissez bien, Leslie Clou, on a aussi là en termes de revendications autochtones un affrontement avec l'État chilien qui depuis des années pose de graves problèmes.
Alors là, pour ce qui concerne le Chili, enfin, d'un point de vue de reconnaissance, on se retrouve un peu dans le modèle français. On a beaucoup de mal à reconnaître l'existence de peuples autochtones en tant que peuple. On a reconnu l'existence d'ethnies autochtones, mais jamais en tant que peuple, parce qu'on a peur justement des droits collectifs qui pourraient leur être reconnus. Donc, on n'a pas ratifié la Convention 109 de l'OIT dont je parlais, qui pourtant est ratifiée par une majorité d'États d'Amérique latine, et à peu près 14 sur les 23 États qui ont ratifié la Convention. Et au Chili, c'est vraiment là le modèle d'économie néolibérale en Amérique latine et peut-être même dans le monde. C'est sous la dictature donc d'Augusto Pinochet qu'a été adoptée une constitution toujours en vigueur et qui encadre le modèle économique d'exploitation de l'ensemble des ressources naturelles et notamment le code minier, le code des eaux. Les eaux sont privées, c'est-à-dire que je peux être propriétaire de ma terre, mais n'importe qui peut enregistrer des droits à l'eau dans ma terre, ce qui concerne aussi la situation donc, des peuples autochtones. Et les peuples autochtones au Chili, donc il n'y a pas cette convention. Ils ont juste une pauvre loi, donc il leur reconnaît des droits, et cette loi reconnaît juste le droit aux terres. Elle ne reconnaît pas le droit au territoire. Et donc elle ne reconnaît pas l'habitat autochtone qui se trouve menacé par les mégaprojets. Et le seul instrument qui a permis de protéger pendant un temps les habitats autochtones a été justement mettre en œuvre ce levier de la consultation. Mais il y a toujours des stratégies, enfin... En plus, en parlant encore un gouvernement de droite, enfin la droite commence à vraiment recouvrir de nouveau l'ensemble de la région. Donc c'est sous Sebastián Piñera, donc président de droite impresarial du Chili. Et
vous disiez qu'en fait la situation politique était aussi responsable de la situation et de la mauvaise situation des Mapuche, hein, c'est ça, au Chili.
Oui, ce qui se passait, en fait, c'est que la justice fait toujours en sorte, en fait, même si des droits sont reconnus, donc de limiter ces droits. Et actuellement, donc, des stratégies ont été de créer des tribunaux environnementaux. On pourrait dire que ça peut protéger les droits des peuples autochtones. Mais au contraire, au lieu donc que la Cour suprême, que les vrais tribunaux qui analysent la protection des droits de l'homme et les recours de protection qui permettent de protéger leurs habitats, ce sont eux qui sont compétents. Dès lors qu'il y a la matière environnementale qui rentre en cause, donc dans le cas de barrages, etc., on délègue donc la connaissance de ces affaires aux tribunaux environnementaux. Et là, dans ces cas-là, les peuples autochtones perdent leurs affaires.
Merci beaucoup, Leslie Clou, juriste spécialisée en droit des peuples autochtones et membre du réseau Justip. Merci aussi à Aileen Sahin de l'ONG Survival International. Il est 8h30 sur France Culture.